Daniel chapitre 5, verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines, s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi ? Le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole. « Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui de la lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Verset 22. Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. J'ai donné comme titre à la prédication de cet après-midi le verset 6 du chapitre 5. Ses pensées le troublèrent. Il arrive dans la vie que des choses puissent nous troubler. Est-ce que vous le savez ? Des événements qui font qu'on puisse être troublé. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour réfléchir. David disait dans ses épîtres, dans ses psaumes, « Je réfléchis à mes voies ». C'est un peu ce que nous sommes venus faire cet après-midi, nous réfléchissons. Nous nous réjouissons de la communion, nous chantons des cantiques qui expriment la joie du salut, mais nous réfléchissons, parce que la vie est là, l'éternité approche et nous devons réfléchir. Et Dieu a laissé ces histoires dans la Bible pour que nous puissions réfléchir. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de réfléchir. Vous aimez réfléchir ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? vous étourdir. Il y a des gens qui s'étourdissent tout le temps. Ils ont besoin, par exemple, de lumière continuelle, de musique continuellement pour s'étourdir. Et la Bible dit au jour du bonheur, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Il faut m'aider parce que c'est l'après-midi. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Donc il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être heureux, mais il y a un temps d'épreuve et Dieu nous demande de réfléchir. Et je me rends compte, en discutant, en observant, que les gens réfléchissent de moins en moins, que les gens ne s'appliquent pas. Tout est fait pour nous empêcher de réfléchir, et on le voit bien. Alors que l'homme a la capacité de réfléchir. Ce qui caractérise un homme par rapport à un animal, eh bien, c'est qu'un homme, il a une âme, donc il peut réfléchir. On n'a jamais vu un chien en train de se gratter la tête pour savoir certaines choses. Un homme, lui, a la capacité de réfléchir. Cette histoire, vous l'avez lue, vous la connaissiez. Hein, cette histoire, je ne sais pas ce que vous avez pensé la première fois que vous l'avez lue. Vous avez pensé à quelque chose la première fois ? Moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup interpellé. Parce que je savais qu'en tant que pasteur, elle me permettrait de faire réfléchir les gens et de me rendre compte qu'on peut avoir plein de projets, plein de plans, on l'a chanté. Hein. On peut avoir des plans, des projets, et c'est bien, parce que Dieu a des plans et des projets, etc. Mais Dieu peut nous arrêter. Vous savez, Dieu peut arrêter un plan, Dieu peut arrêter un projet, Dieu peut provoquer une situation pour nous faire réfléchir. Comme ça a été le cas. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il ne faut pas dépasser les bornes. Est-ce que vous le savez ? Le Saint-Esprit a le pouvoir de convaincre quelqu'un. C'est ce qui se passe lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Il y a des gens qui rentrent, ils sont hostiles, ils sont contre Dieu. Puis tout d'un coup, ils ont écouté une prédication ou plusieurs. Ils ont lu un texte ou plusieurs. Et ils se retrouvent, comme la Bible l'appelle, convaincus de péché. Quelque chose s'est passé. Ils étaient contre Dieu. 5 minutes après, ils sont en train de réfléchir par rapport à Dieu. Le trouble, ça sert à faire réfléchir. Là, il a été troublé dans ses pensées, parce que ce qui a été écrit au sujet de Belsazar pourrait être écrit pour chacun d'entre nous, être troublé parce que telle situation que je n'attendais pas, qui s'est imposée en plein projet, j'étais en train de faire un repas. Oui, c'était pendant un repas. Mais ça peut être pendant le travail, ça peut être n'importe quand. Je pense que Dieu permet certaines choses. Et cet après-midi, Dieu peut vous montrer qu'il est en train de permettre certaines choses pour vous faire réfléchir. Peut-être que vous refusez de réfléchir, comme certainement c'était le cas, parce que, vous avez remarqué, la mère du roi va lui dire, mais il y a dans ton royaume un prophète, il ne le savait même pas. Il avait à portée de main un des plus grands prophètes qui existait dans l'histoire, il ne le savait même pas. Quoique, nous, on a plus qu'un prophète. Nous, on a le Seigneur Jésus qui est à portée de main et les gens ne le savent même pas. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Et cet homme, lui, refusait de réfléchir. C'est ce que nous en comprenons. Il avait été confronté, il a refusé. Vous avez vu quand Daniel lui dit, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Vous avez vu verset 22, « Tu n'as pas humilié ton cœur, quoi que tu saches, toutes ces choses. » Jusqu'à ce jour-là, il n'était pas habitué à réfléchir. Il a fallu quelque chose qui le trouble. Vous savez, si vous étudiez l'histoire des rois de Babylone, rien que dans la Bible, vous vous rendez compte que c'était des hommes qui étaient méchants, cruels, féroces, qui faisaient mourir qui voulait. Les rois de Babylone étaient vraiment connus pour leur cruauté. Ça, c'est sûr quand vous étudiez l'histoire, rien qu'avec la Bible. Cet orgueil, cette suffisance, cette soif de pouvoir nous empêche de réfléchir. Et si vous croyez que vous êtes au-dessus des choses, parce que vous allez me dire, oui, mais c'était un roi, mais combien il y a parmi nous de petits, des roitelets, on pourrait les appeler, non ? Des gens qui se prennent pour des rois, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils n'ont pas le pouvoir de vie ou de mort sur les gens, mais ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui fait que Dieu sait comment intervenir. Il y a de l'orgueil dans le cœur de cet homme. Le verset 23 le montre bien. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Lorsqu'un homme refuse d'écouter le Seigneur Jésus lui parler, lorsqu'un homme refuse d'écouter la prédication de la croix, il s'élève contre Dieu. Ce n'est pas compliqué. Il est dit « Tu n'as pas glorifié, voyez, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Est-ce que vous savez que si vous êtes vivant, c'est une grâce de Dieu? C'est un effet de la grâce de Dieu. C'est ce que Daniel va dire à cet homme. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a ton souffle dans sa main. Cet homme faisait ce que les gens veulent faire aujourd'hui. Ils veulent faire la fête. Entendez les gens parler, ils veulent faire la fête, boire, s'amuser, se divertir, s'étourdir. Alors peut-être que nous ferions la même chose si nous n'étions pas chrétiens. C'est sûr que boire, faire la fête, ce n'est pas propre à la méditation. Ça ne pousse pas les gens à méditer. Lorsque les gens pensent qu'à s'étourdir, ça ne les amène pas à avoir le réflexe de méditer. Vous connaissez le proverbe qui est biblique, enfin, qui est repris dans la Bible, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Et beaucoup de gens en sont là, ils ne veulent pas réfléchir. Cette histoire nous montre que quand on ne réfléchit pas, on s'enfonce de plus en plus dans le péché et qu'on finit par profaner les choses de Dieu. Vous avez vu comment ça commence? Il commence à boire, à faire la fête, monsieur invite tous les copains, toutes les copines. Et quand ils ont bu du vin, vous avez vu ce qu'ils font? Ils prennent les choses du temple. Et il profane les choses du temple. Et je peux vous dire que certaines activités nous amènent à mépriser les choses de Dieu. Vous savez, il y a des activités saines, on a le droit de se détendre. Est-ce qu'on peut se détendre? Bien sûr. Mais il y a de la détente qui n'est pas de la détente. Il y a de la détente qui nous éloigne de Dieu. Et d'ailleurs, il lui en parle. Vous avez vu, il commence à adorer les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, de bois, de pierre. La Bible parle souvent des idoles. On va prendre un texte juste pour comprendre ce que Dieu en pense. Parce que peut-être que vous vous dites, oh ben moi je prie. L'autre jour on m'a envoyé un monsieur qui m'écoute sur internet, qui doit être d'une autre dénomination. Il me dit, monsieur Gaud, j'aimerais que vous m'expliquiez comment il faut que je bénisse mon chapelet, etc. Alors je lui ai répondu, bien sûr. Et les gens sont souvent dans l'ignorance et ils font des choses que Dieu condamne. Alors on va lire juste un texte dans Ésaïe 46. Il y en a plein dans Ésaïe, le texte où Dieu montre combien il est en opposition avec les idoles. C'est quelque chose de terrible. Ésaïe 46, c'est important de voir ce que Dieu pense des idoles parce que beaucoup de gens pensent adorer Dieu quand ils prient des idoles. Mais en vérité, c'est des choses qui sont abominables. Ésaïe 46... 5 à 8. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils paient un orfèvre pour qu'ils en fassent un dieu, ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, il y reste, il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Voilà, les idoles ne sauvent pas. Il y a un texte au chapitre 44 que j'aime beaucoup. Au chapitre 44, il y a un texte moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport aux idoles. Le Seigneur, il faudrait lire du verset 9, mais vous pourrez le faire au verset 20. Il explique la stupidité de prendre un arbre, la moitié d'en couper du bois pour se faire du feu, ou de faire rôtir un gibier, et l'autre moitié en faire une idole. On va lire ce qui nous reste, ce qui nous intéresse. Pour vous montrer l'aveuglement, Ésaïe 44, verset 17. Avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Regardez bien ce que Dieu dit. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas en lui-même. Regardez, vous avez vu l'expression ? Ils ne rentrent pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination. » Voilà ce que Dieu pense de toutes les idoles. Dieu dit que ce sont toutes des abominations. Mais regardez la suite. « Je me prosternerai devant un morceau de bois, il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, il ne sauvera pas son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ? Des textes comme ça, il y en a plein dans la Bible, où Dieu montre la folie de prier des idoles, du bois, de la pierre, de l'or ou de l'argent, qu'importe le métal utilisé ou le matériau utilisé, Dieu dit que ça empêche les gens de rentrer en eux-mêmes, ça empêche les gens de réfléchir. C'est pour cela qu'il y a plein de croyants qui n'ont jamais rencontré Jésus-Christ, parce qu'ils ne rentrent pas en eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas, ils ne sauveront pas leur âme. Vous ne sauverez pas votre âme en adorant des idoles. En adorant des idoles, vous ne pourrez pas sauver votre âme. La seule personne que vous pouvez adorer, c'est le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que vous pouvez adorer parce qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Ça, c'est un drame, ça. Vous voyez, quand il est dit, il ne rentre pas en lui-même. Ce qui amène un homme à réfléchir, c'est qu'à un moment donné, il entend la prédication de la croix. Il entend que Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ et que ce Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour que vous puissiez être pardonné de vos péchés. Les idoles vous empêchent de rentrer en vous-même parce qu'une idole, ce qui est de commode dans une idole, c'est que vous êtes sûr qu'elle ne vous répondra pas. Donc en vérité, vous faites ce que vous voulez. C'est beaucoup plus pervers que ça au niveau spirituel, mais c'est certain que ça... Vous ne pourrez pas sauver votre âme si vous priez les idoles. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur Dieu par la bouche du prophète Ésaïe. Et si vous prenez le temps de lire ce prophète, vous allez voir tous les textes qu'il y a sur les abominations que représente l'idolâtrie. Et voyez cet homme, il fait la fête, il invite les amis, il boit. Et quand il a trop bu, eh bien il fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, profaner les choses saintes. Vous savez, on peut rire. Moi, je pense qu'il y a un temps pour rire et que c'est bien de rire. Mais on ne rit pas avec les choses de Dieu. Jamais. C'est pour ça que le Seigneur est intervenu. Parce qu'il y a un moment où Dieu intervient. C'est comme là, dans une situation impromptue. Ça peut être lorsque notre vie se termine. De toute façon, Dieu intervient. Un moment ou un autre, que ce soit ici-bas ou que ce soit juste après notre mort, Dieu intervient pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Et là, nous voyons quelque chose de complètement étonnant, une main, tout d'un coup, vous rendez compte, une main qui écrit sur le mur de la salle à manger, ils sont là, ils se moquent, ils adorent la pierre, l'or, l'argent, ils se moquent de Dieu. Beaucoup de gens se moquent de Dieu. Dieu a parlé à Belshazzar de cette manière. Moi, la question que je peux nous poser, comment Dieu va-t-il te parler ? Est-ce que tu laisseras Dieu te parler ? Peut-être que tu dis, mais est-ce que Dieu s'intéresse à ma vie ? Oui, Dieu s'intéresse à tous les hommes. Que vous soyez des rois, ou que vous soyez des SDF, que vous soyez des analphabètes ou des intellectuels, des riches ou des pauvres, Dieu s'intéresse à tout le monde. Il veut parler à tout le monde. Il veut que vous rentriez en vous-même, dans un moment comme celui-ci, ou peut-être tout à l'heure à la maison, de rentrer en soi-même, mais où j'en suis de mon âme. Parce qu'à un moment donné, Dieu écrira quelque chose. Peut-être pas de cette façon, mais laissez-moi vous dire que Dieu portera son jugement sur ce que vous avez fait de votre vie. Comment Dieu peut-il parler à votre âme ? Ou est-ce que vous avez dit au Seigneur, parle-moi d'une manière tout à fait superficielle, en vérité, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, moi j'ai cherché Dieu, et je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Moi je dis à ces gens, vous n'avez pas dû le chercher longtemps. Parce que la Bible dit que celui qui cherche, il trouve. Et les gens se moquent de Dieu. Comment Dieu pourra-t-il parler à votre âme, à votre conscience ? Est-ce que vous êtes à l'abri du jugement ? Cet homme avait certainement fait beaucoup de choses mauvaises, c'était un orgueilleux. Et la conscience, je ne sais pas, vous avez une conscience ? Elle vous parle, votre conscience aussi ? Vous avez une conscience ? On a tous une conscience qui nous interpelle lorsque nous faisons quelque chose, même lorsque nous pensons quelque chose. Parce qu'on pourrait parler de Belshazzar tout l'après-midi. Et ça serait même intéressant de le faire. Mais je pense que, bon, à un moment donné, il faut parler de Belshazzar, parce que ça nous permet de comprendre certaines choses, mais en vérité, à un moment donné, il faut qu'on parle de soi-même. Où j'en suis ? Est-ce que j'ai des raisons, moi aussi, d'être troublé ? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu ? Est-ce que mon âme est à l'abri du jugement ? Cet homme, quand Dieu est intervenu, c'était trop tard. C'était trop tard. Il avait certainement usé la patience de Dieu et c'était trop tard. Il a tourné les choses saintes en ridicule. Et vous savez, quand on commence à tourner les choses saintes en ridicule, ce n'est pas bon signe. J'espère que vous respectez la parole de Dieu. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu, si vous dites « oui, tout ça, c'est des hommes qui l'ont écrit, il y a peut-être des choses intéressantes », ne vous moquez pas des choses de Dieu, parce qu'il se pourrait que quand Dieu intervienne, ce soit trop tard. Cet homme, il est là, il est accompagné de gens qui aiment boire, de gens qui aiment faire la fête. Au fait, quel est l'entourage que vous avez ? Des ivrognes, des débauchés ou des gens qui aiment la parole de Dieu ? C'est important de savoir, oui ou non, hein ? Qui c'est qui nous entoure ? Les mots qui ont été écrits ce jour-là, c'était des paroles de jugement, parce qu'ils se moquaient des choses de Dieu. Et moi, cet après-midi, je voudrais vous dire que la main de Dieu n'a pas écrit que des paroles de jugement. Le Seigneur, il a écrit plein de paroles de bénédiction. Sa main, non seulement elle écrit, mais sa main, vous le savez, elle a amené la bénédiction sur plein de gens. Vous avez vu les mains du Seigneur Jésus ? Le bien qu'elles ont fait ? Comment les mains du Seigneur ont béni ? Cet après-midi, qu'est-ce que vous voulez ? Que la main du Seigneur prononce un jour le jugement ? Ou est-ce que vous voulez que la main de Dieu amène la bénédiction ? C'est à vous de choisir. Imaginons, si c'était votre dernier jour sur la terre, est-ce que ça peut arriver ? Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des gens. C'était la dernière fois qu'ils venaient à l'église. Le dernier jour. Ça m'est arrivé quelquefois. Ça fait drôle parce que vous prêchez la croix. Et je peux vous dire que quand vous apprenez le lendemain qu'un des nouveaux qui était là est parti dans la gloire, ça fait vraiment réfléchir. Donc cette parole, elle était vraiment pour Belshazzar. Elle n'est pas pour vous, à moins que vous n'ayez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et que vous partiez dans la nuit et que vous vous soyez moqué des choses de Dieu. Cette parole, elle serait pour vous. Mais il y a des paroles bénies, vraiment des paroles bénies, pour ceux qui acceptent Jésus. Je ne sais pas si vous le savez. Dieu n'est pas venu pour juger le monde, Dieu est venu pour le sauver. Est-ce que vous voulez que sa main soit une main bénissante pour vous cet après-midi ? Sa main, on le chante, Christ sous ta main, bénissante, nous nous plaçons par la foi. Moi, je ne veux pas me moquer des choses de Dieu. Je ne veux pas entendre, tu savais ces choses, tu les savais, mais tu n'as pas appliqué ton cœur. Des millions de gens, hélas, entendront cela. Je t'avais parlé à tel mariage, tu avais assisté à tel baptême, à telle présentation d'enfants, tu avais assisté à un culte, tu avais entendu la voix de Dieu et tu n'y as pas prêté attention. Tu as continué à t'étourdir, à t'amuser, à te moquer, à t'entourer de gens qui ne pensaient qu'à boire, qu'à fumer du shit. Oui, il y a des gens qui ont fait ces choix. Belshazzar fait partie de ces gens-là. Mais vous pouvez dire cet après-midi, moi je veux que la main du Seigneur soit sur moi. Cette main qui a été percée, cette main qui a été crucifiée, je veux qu'elle se pose sur mon âme. Je veux être à l'abri du jugement. Vous savez, c'est terrible quand vous entendez la vérité. Vous vous rendez compte, cet homme, il est là, imaginez, il est en train de faire la fête, il fait le beau. Il fait le beau, il fait le malin, et puis tout d'un coup, Dieu intervient. Tout d'un coup. Mais la parole est terrible. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ce matin, c'était beau le chant, je renonce à ma légèreté. Léger, c'est quoi ? Ben, c'est quand Dieu n'est pas avec nous, quand Jésus-Christ n'est pas avec nous, sur le côté de la balance, imaginez dans une balance, si vous êtes sans Jésus, je peux vous dire que vous êtes léger. Si Jésus-Christ n'est pas votre sauveur, vous êtes vraiment léger. Si Jésus-Christ est à côté de vous, je pense que dans la balance, il y a quand même un certain poids. Oui ou non ? Je crois que là, vous faites le poids. Si Jésus-Christ est avec vous, dans votre vie, si vous l'acceptez comme sauveur, pas comme dire, tiens, j'étais catholique, je vais être évangélique, on l'a entendu ça. J'étais protestant, ça m'intéresse votre religion, c'est différent, je vais changer de religion. Non, si vous changez de religion, ça ne changera rien. Il y a une personne un jour qui est venue me voir, il n'y a pas longtemps, c'était ici. Elle vient me voir, me dit, monsieur Jugo, je ne comprends pas. On m'a dit, viens à l'église et tu seras béni. Ça fait 6 mois que je viens à l'église, je ne suis pas béni. Je dis, la personne, elle vous a mal expliqué. Il ne faut pas venir à l'église, il faut venir à Jésus-Christ. Et il m'a fallu passer 1 heure avec la personne pour lui expliquer la différence entre venir à l'église pour venir à l'église et écouter des prédications et puis venir à Jésus-Christ, passer par la croix, passer par la repentance, vraiment abandonner sa vie. Et il n'y a que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Cet homme, il aurait pu. Est-ce qu'il aurait pu obtenir le salut? Eh bien oui. Et certainement, puisqu'il savait ces choses, il aurait pu. Il aurait pu dire à sa mère, mais on m'a souvent parlé de ce gars-là, comment il s'appelle? Daniel. Oui, mais fais-le venir. Est-ce qu'il aurait pu le faire venir? Avec ce que son père avait vécu, moi, il me semble qu'il aurait pu le faire venir. Et lui dire, mais c'est quoi ton Dieu? Etc. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons plus que Daniel, nous avons plus que les prophètes, nous avons la parole de Dieu, nous avons la Sainte Bible, nous avons le Seigneur Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Chez vous, tout à l'heure, vous pouvez dire, mais Seigneur, moi je veux que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Qu'est-ce que vous voulez? Que Dieu écrive une parole de jugement ou que Dieu écrive votre nom dans le livre de vie? Quel bonheur pour un homme quand son nom est écrit dans le livre de vie. Quel bonheur quand un homme sait que son nom est écrit dans le livre de vie. Alors votre nom, est-ce qu'il est écrit dans le ciel? Je pense qu'au ciel, c'est la chose la plus terrible qui existe. Je ne sais pas qui, mais il est écrit que si on n'est pas fidèle, notre nom sera effacé du livre de vie. Je pense que ça doit être le travail le plus triste dans le ciel. Je ne sais pas si c'est un ange qui le fait, mais franchement, ça doit être au ciel, il y a quelque chose de triste, c'est bien ça. Quand les noms des chrétiens sont effacés parce que les chrétiens redeviennent légers avec Dieu. Et nous, il est hors de question cet après-midi que nous acceptions cette légèreté. Nous voulons que la grâce de Jésus-Christ soit sur nous. Alléluia. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Que vous partiez en disant, oh, ta main, elle n'est pas contre moi. Ta main, elle est pour moi. Il y a plein de textes comme ça. Il est dit, la main de l'Éternel, elle est pour ceux qui le craignent. La main de l'Éternel, elle est pour ceux qui cherchent Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu a une main, on peut le présenter comme ça, pour ceux qui le craignent. Dieu a une main pour ceux qui le cherchent. Quelle main du Seigneur vous voulez? Cette main bénie qui vous gardera, qui vous protégera, qui vous accueillera, qui vous soutiendra. C'est écrit, ma main te soutiendra. Quel bonheur lorsque nous avons ce Dieu avec nous. Cet homme aurait pu l'avoir. Il a eu cette parole de jugement. Et quand je pense à Belshazzar, je pense aux millions de Belshazzar qu'il y a sur la terre. Des gens qui se moquent de la parole. C'est pour ça que nos activités soient saines, mais que notre détente ne soit pas malsaine. Parce que si la détente est malsaine, on a vite fait d'être entraîné avec des gens qui vont nous éloigner de Dieu. Veillez sur vos fréquentations, croyez-moi. Veillez sur les gens que vous fréquentez. Nous avons vu des chrétiens qui ont dit je veux les gagner, et c'est l'inverse qui s'est passé. Ce sont des pécheurs qui ont entraîné des chrétiens. J'ai même entendu un jour dans une église un pasteur qui pleurait. Il avait un jeune pasteur qui avait à cœur de s'occuper des homosexuels. Il avait à cœur. Il s'est occupé des homosexuels et 6 mois après, c'est ce jeune pasteur qui est devenu homosexuel. Le pasteur, il était déchiré. Je crois qu'avant de faire certaines choses, il vaut mieux être sûr de savoir que c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous garde. Belshazzar, il a entraîné plein de gens à sa suite. Moi, j'aimerais que nous nous entraînions à notre suite, plein de gens qui auront leur nom écrit dans le livre de vie. Vous ne croyez pas? On va fermer les yeux quelques instants. Il faut que sa main, vous tous qui êtes ici cet après-midi, il faut que sa main soit une bénédiction. La main du Seigneur, elle a été crucifiée. Ses pieds ont été crucifiés. Il a été cloué, couronné d'épines, pour que sa main soit une bénédiction. La Bible est catégorique. Il y a des gens pour qui Jésus sera un avocat. C'est lui qui défendra votre cause devant le Dieu le Tout-Puissant. C'est écrit. Et il est même écrit dans ce même chapitre que ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme sauveur, Jésus sera leur juge. Alors, répondez-vous, Jésus-Christ est-il votre avocat ou Jésus-Christ est-il votre juge? Sa main sera-t-elle utilisée pour vous condamner? Ou cet après-midi, sa main, puisque le ciel est encore ouvert, puisque si ce n'est pas le dernier jour de votre vie, cette parole peut être une bénédiction. On va prier simplement. Vous savez, ce sont des moments sérieux. Dieu veut qu'on le rencontre. Dieu veut nous parler. Dieu veut écrire quelque chose. Mais pas ça. Dieu veut écrire ce qu'on a chanté tout à l'heure, « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Oui, elle nous permet de réfléchir à notre salut, à notre éternité. Nous voyons bien que tu as en abomination toutes les idoles, parce qu'aucune ne peut sauver notre âme. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peux sauver un homme. Et je te prie, Seigneur, que tu délivres de la légèreté, que tu délivres de l'indifférence, que tu délivres de l'assoupissement, celui qui cet après-midi est en train de s'éloigner de toi, celui qui ne s'occupe pas de son âme. Merci pour ces moments. Vraiment, Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Tu nous les accordes, que ton nom soit béni, pour que ta main soit pour tous une bénédiction. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.